Bonjour à tous, mardi 8 mai 2018, bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Allez, c'est une habitude, à présent, nous sommes deux, et ai-je encore besoin de vous citer son nom? Je suis avec Jean.
Bonjour Louis, vous savez que c'est un plaisir que je vis ici, de venir vous rejoindre à tous les mardis matins comme ça.
J'ai coché les mardis dans mon agenda, je les attends aussi chaque semaine.
C'est mon petit bonbon de la semaine, je dirais.
Je suis tout à fait d'accord, nous avons bien du plaisir. C'est Louis de Bernis qui vous parle, et nous avons tout plein de sujets encore. Nous sommes allés en fouiller dans la presse ici et là. Et qu'avons-nous? Qu'avons-nous trouvé?
Ben, de mon côté, je me suis efforcé de d'abord diversifier le choix des sujets. Je m'efforce de sortir de mes zones de confort comme ça. Je pense que c'est bon pour tout le monde et moi le premier. Aussi, dans le temps, hein, de présenter des sujets qui sont des événements à venir plutôt que de toujours parler de trucs qui se sont passés. Rapidement, je vous parle de marketing. Un événement à venir à la SAT qui a lieu très, très prochainement. En fait, c'est demain. Ensuite, de la relation entre les buveurs d'alcool et les non-buveurs. Il y a des trucs intéressants à apprendre là. Du côté du travail au boulot, qu'est-ce qu'on admire chez les autres personnes? Ça en révèle beaucoup sur nous-mêmes souvent. On parle recyclage souvent. Vous savez qu'on recycle énormément, particulièrement le verre. Mais où est-ce que ça aboutit? Quels sont les exemples concrets, la portée que ça peut avoir? Eh bien, je vous invite à vivre ce texte-là, ce partage-là. Oui, c'est étonnant, vous allez voir. En fait, vous allez marcher dessus tout l'été. Je vous donne un indice, là. Ensuite, un événement du côté de la biodiversité. Le fleuve Saint-Laurent est en péril. Il y a un événement à venir très prochainement de grande envergure. Ça se passe au Palais des Congrès avec plus de 1000 scientifiques. Et avant tout ça, Louis, je parle ce matin j'ai été interpellé par un titre. Non, votre intestin n'a pas besoin d'être nettoyé. Comment va votre côlon?
Eh bien, on va voir. Je vais me poser la question.
Je présume que vous ne le monitorez pas de façon assidue.
Pas toutes les semaines, non. Bien, sortez vos agendas alors avec Jean-François qui vous annonce plein d'événements à venir. De mon côté, une thématique assez animalière, sans faire exprès. Nous parlerons de canard d'abord, le canard de bain. Et moins mignon qu'on ne le croit, faites attention, méfiez-vous. Également de grenouilles qui se retiennent d'uriner, on verra pourquoi. Peut-être lié avec les buveurs, non-buveurs, nous verrons. Également de la mouche qui se rafraîchit, a une technique pour se rafraîchir l'été, à appliquer peut-être pour nous, pas sûr. Et voilà, c'est dans quelques instants, dans les voies de service.
Ben c'est ce matin que j'ai été interpellé par ce titre, ça nous vient du journal Métro. Non, votre intestin n'a pas besoin d'être nettoyé. Il existe une quantité astronomique de mythes entourant la santé. Et Olivier Bernard, alias le pharmacien, s'en est fait une spécialité. C'est un texte qui est signé Ève Baudin. D'abord dans son blog, puis ses livres, le troisième, « La Bible des arguments qui n'ont pas d'allure », est paru récemment et depuis l'an dernier, dans son émission « Les aventures du pharmacien sur Explora ». En entrevue, il s'attaque à un mythe vieux de quelques millénaires qui remet au goût, du jour, notamment avec la polémique qui entoure les conseils offerts à une nouvelle maman. Par une naturothérapeute de l'équipe de Jacinthe René. Je parle de la comédienne Jacinthe René. Quel est le mythe que vous aimeriez déboulonner? L'idée selon laquelle l'intestin accumule des déchets et doit être nettoyé, sans quoi il commence à fonctionner moins bien. Plus précisément, on entend dire que les matières fécales peuvent s'entasser dans le côlon, se putréfier et s'incruster dans la muqueuse intestinale, créant ce que certains appellent la plaque mucoïde. Les conséquences sont censées être multiples. Malabsorption des nutriments, maladies inflammatoires, infections parasitaires, troubles de santé mentale, accumulation de substances toxiques qui nuisent à la santé, etc. Les traitements proposés incluent typiquement l'hydrothérapie du côlon, les lavements et des cures à base de plantes. Pourquoi est-il important de rectifier cette information? Ben, d'une part, parce que cette croyance pousse les gens à chercher des soins et à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin et qui génèrent de l'anxiété et des dépenses. Inutile, d'autre part, parce que les soins des produits en question peuvent poser des dangers pour la santé, dont celui de retarder ou de freiner l'accès à des traitements médicinaux réellement nécessaires. Pourquoi ce mythe est-il toujours aussi répandu, selon vous? L'idée de l'auto-intoxication par les excréments n'est pas nouvelle. Elle remonte au moins à l'Égypte ancienne et est également présente dans la Grèce antique. Elle a même persisté jusqu'au début des années 1900. Mais à ce stade, les connaissances scientifiques quant au corps humain ont fait en sorte que la théorie ne tenait plus la route et a été rejetée par la communauté scientifique. À mon avis, si l'idée persiste de nos jours, c'est qu'elle est perpétuée par les naturothérapeutes. D'ailleurs, le terme « plaque mucoïde » aurait été inventé par un naturopathe, Richard Anderson, qui commercialise une cure de nettoyage de l'intestin. De nombreuses célébrités ont également vanté de supposées vertus de l'irrigation du côlon et des lavements. De plus, on a vu un intérêt populaire marqué pour tout ce qui concerne l'intestin ces dernières années. Microbiote, aliments fermentés, le deuxième cerveau qui serait notre intestin, etc. Ces intérêts jouent forcément en faveur des adeptes de l'irrigation du côlon. Mais qu'est-ce que dit la science? L'hydrothérapie du côlon se base sur des concepts non exigeants en science. Plus d'une fois, on m'a demandé des preuves lorsque j'affirme que la plaque mucoïde n'existe pas. C'est un bel exemple de ce que l'on appelle le renversement du fardeau de la preuve. Si des déchets s'accumulaient vraiment dans l'intestin, ils pourraient aisément être observés par des médecins lors de colonoscopie ou de chirurgie de l'intestin. Or, rien de tel n'a été observé. Il y a évidemment plusieurs pathologies de l'intestin qui affectent la muqueuse intestinale, colite, ulcéreuse, maladie de Crohn, maladie coéliatique, cancer intestinaux, mais elles n'ont rien à voir avec les concepts proposés dans l'hydrothérapie. D'ailleurs, le diamètre du côlon normal est de 4 à 6 cm. Si des substances s'y accumulaient au fil des années, comme le prétendent les hygiénistes, l'intestin serait rapidement bouché, comme c'est le cas en présence d'impactions fécales ou fécolomes. Certains hygiénistes du côlon demandent aux patients d'avaler des produits naturels avant l'hydrothérapie dans le but d'inactiver les toxines ou d'aider la plaque mucoïde à décoller. Ces produits peuvent inclure par exemple de la fibre de phyllium, de la gomme de guar et de l'argile de bentoïte. Or, ce sont des substances qui deviennent gélatineuses au contact de l'eau. On peut donc présumer que les déchets évacués au cours de l'irrigation ne sont pas des déchets, mais tout simplement des résidus des produits naturels consommés. A-t-on des preuves de l'efficacité de l'irrigation du côlon? Il n'y a pas de preuve que l'irrigation du côlon a un effet positif sur quelconque problème de santé, pas plus que sur le microbiote intestinal. Au contraire, il est raisonnable de penser que laver l'intestin risque davantage de nuire à l'équilibre de la flore bactérienne. Notons que les déchets ou toxines qui sont censés être éliminés au cours de l'hydrothérapie ne sont pas précisés. S'agit-il de produits secondaires du fonctionnement normal de notre organisme, des polluants? On l'ignore. Mais surtout, ces déchets ne sont-ils pas éliminés chaque jour quand nous allons aux toilettes? Sans ces précisions, il est difficile de voir comment l'irrigation peut être pertinente. Les risques associés au nettoyage de l'intestin sont nombreux. Des cas de perforation du côlon causant la mort ont été rapportés à la suite d'hydrothérapie, de même que des infections causées par des équipements mal stérilisés. Certains de ces cas ont mené à des décès. Il est à noter qu'aucune réglementation n'encadre de telles thérapies. Le Collège des médecins du Québec a d'ailleurs reçu plusieurs plaintes ces dernières années concernant l'irrigation du côlon. Pour ce qui est des cures à base de plantes médicinales, elles contiennent principalement des laxatifs qui sont sujets à plusieurs précautions et contre-indications. Alors, pas nécessaire de monitorer notre côlon.
Entendu, c'est bien noté. Ouais, voilà. Suivons avec un thème de santé pendant que je tousse un peu, mais rassurez-vous, je reste avec vous bien en santé. Poursuivons, oui, avec un thème de santé, comme ça nous aurons évacué dès le début du matin les sujets les moins ragoûtants, dirons-nous.
Ce sera fait.
Le français, le gaulois que je suis, n'a peur que d'une seule chose, que le ciel lui tombe sur la tête. Eh bien, désormais, j'ajoute une deuxième phobie, celle du canard de bain. Et c'est très sérieux, le canard de bain, ce fléau, cette véritable bombe à bactéries et champignons. La curiosité des scientifiques n'a pas de limite, et je m'en félicite. Des chercheurs suisses et américains ont étudié de près les canards en plastique qui flottent dans les bains des petits, et parfois aussi des grands. Et le résultat est peu ragoûtant. Dans un communiqué intitulé « Les vilains petits canards de bain », il faut savoir s'amuser même quand on est scientifique.
Ben c'est quelque chose d'important le canard de bain, ça marque notre enfance.
Exactement, ben méfiez-vous. Ce rapport, ce communiqué donc publié il y a environ un mois par le Conseil fédéral suisse, les conclusions de l'étude sont sans appel. Tout corps en plastique plongé dans un liquide déjà pollué par nos ablutions devient une véritable bombe à bactéries et champignons. Pour y parvenir, une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche sur l'eau EVAG, de l'École polytechnique fédérale de Zurich et de l'Université de l'Illinois aux États-Unis avait placé des canards neufs pendant 11 semaines dans de l'eau propre et un autre groupe de canards dans de l'eau de bain usagée contenant des restes de savon, de la saleté, de la sueur et des bactéries accompagnatrices du corps humain. Les canards découpés et examinés au laboratoire ont révélé qu'entre 5 et 75 millions de cellules avaient trouvé place sur chaque centimètre carré de surface. Les canards exposés à de l'eau de bain sale étaient porteurs de champignons et 80% de tous les canards étudiés avaient développé des germes potentiellement pathogènes, notamment des légionelles et des bactéries très résistantes. Le problème vient surtout de l'intérieur du jouet, difficile à nettoyer. Lorsque l'enfant appuie ou le grand enfant appuie sur le ventre pour faire gicler de l'eau, il n'est ainsi pas rare que le jet soit de couleur brune, souligne l'étude. Cela peut renforcer leurs défenses immunitaires. À ce moment-là, c'est plutôt positif, commente très sérieusement le microbiologiste Frédéric Hams de l'EVAG, cité dans le communiqué. Mais, souligne-t-il, cela peut également provoquer des irritations, en voici d'autres, des yeux et des oreilles, ou des infections gastro-intestinales plus problématiques. Vous voyez, nos sujets sont liés, finalement.
Ah ouais, tout est dans tout.
Faut-il donc renoncer aux canards de bain ou les nettoyer en profondeur après chaque utilisation ? Interrogent les auteurs de l'étude. Ou bien, comme certains le recommandent sur Internet, boucher les trous des vilains petits canards afin d'empêcher les giclées. Monsieur Hams suggère une solution plus scientifique et plus radicale, durcir la réglementation sur les polymères utilisés dans la fabrication des jouets destinés à flotter dans nos baignoires. C'est toute une industrie qui tremble.
Est-ce qu'on sait si les canards sont morts ?
Je pense qu'ils ont été découpés d'après ce que j'ai lu, donc à mon avis, on peut moins jouer avec désormais des moitiés de canards.
The duck was quacking, the duck was laughing. The duck was dancing by the water, quack, quack, quack. The rhythm made him think he ought to quack, quack. He was dancing to the samba, the samba, the samba, oh, gusso. The goose was gaining, passing by, honk, honk, honk. He stopped and gave the dance a try, honk, honk. Bossa nova had been dancing, the new thing, the new swing. Then a lovely swan swam by in all her majesty, and she loosened up. Hoochie coochie coo did that swan. She joined the duck and goose and did the samba too. You should have seen the kind of samba she could do. They did the samba so long they all fell right in the water while they were singing away. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Ooh, but the... Vinha cantando alegremente, queen, queen. Quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o canso. Gostou da dupla, fez também quen, quen, quen. Olhou pro cis e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fora, menseia para começar o tico-tico do fubá. A voz do pato era mesmo de zagato. Jogou de cena com um canso, era mato. Mas eu gostei do final, quando caí na mágoa e ensaiando o vocal. Quen, quen. Thank you. play fish também, queen, queen, queen. Olho pro assistente e disse assim, vem, vem, que com até tu ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram uma ideia para começar um tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desagado, jogou de cena com um canso aromado. Mas eu gostei do final, quando caíram na água e ensaiando o vocal, quen, 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 quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 o pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quen. Quen, 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 o pato.
N'ayant pas sous la main de pièces qui parlent de canards en caoutchouc, je me suis permis de nous faire entendre Emily Claire Barlow qui reprenait « Au pato de Doc, le canard ».
Je tiens à préciser, un des petits plaisirs de cette émission, c'est de voir Jean-Sébastien de l'autre côté de la vitre, pendant que nous parlons, qui cherche, sans rien nous dire bien sûr, des pièces, et qui, une fois que la pièce commence, nous regarde fixement en surveillant l'effet que ça va produire sur nous. C'est tout à fait réussi en général, et c'est très rigolo.
Et moi aussi, j'encercle dans mon agenda le mardi matin pour ces petits bonheurs.
Il est ratoureux, notre metteur en ondes. On fait une belle équipe. Louis, à quelle génération appartenez-vous? Vous n'êtes pas millénial, vous?
Je suis alors, je m'y perds. Je dois avouer que je m'y perds entre toutes les lettres qu'on a inventées.
Je dirais Y, moi.
Je suis des années 90.
Bon, ce serait Y. Vous appartenez à la génération Y.
Très bien.
Mais ça me rassure parce que cet article traite des millénials. Alors, c'est un peu la cible des marketeurs. Pourquoi les nouvelles générations fascinent-elles toujours les marketeurs? Ça nous vient du site web d'InfoPresse. Ça a été publié le 4 mai dernier. La question va être approfondie demain, le 9 mai, à la Société des arts technologiques, à l'occasion de la conférence « Marketing et nouvelles générations ». Snapchat, Vice et Léger Marketing sont notamment au programme. Gagner la confiance des Z. Ben voilà, on l'appelle comme ça, les Z. Saisir les conflits inhérents à la culture des jeunes s'avère difficile. Compte en commun les marques qui connaissent du succès. Elles savent se mettre sur la même longueur d'onde que leur clientèle cible. Cette séance démontrera pourquoi se syntoniser à la même fréquence que la génération Z constitue un moyen pour les marques de renforcer leur crédibilité auprès des jeunes en se consacrant à leur culture. Vous y apprendrez 5 vérités fondamentales sur le marketing jeunesse telles que pratiquées par les marques de premier plan, des stratégies d'encadrement efficaces, des exemples concrets et des conseils tirés sur le terrain du marketing jeunesse. Snapchat, comprendre le comportement des milléniaux par l'utilisation de l'application. Au cours de cette étude de cas, Mike Weber dévoilera de grandes particularités qui ont engendré le succès de l'application Snapchat auprès des plus jeunes. De la consommation du contenu aux habitudes d'interaction, il partagera les grands apprentissages de la marque concernant le comportement des milléniaux avec l'application. Influenceurs, comprendre l'évolution du phénomène. En développement depuis plusieurs années, l'industrie des influenceurs a atteint une phase de maturité. Bien qu'encore complexe, les règlements du jeu se sont étoffés et les pratiques démocratisées. Élie Prudhomme, directeur de Goji, dressera un état des lieux de ce domaine qui continue de se transformer. Ensuite, il s'attardera sur les grandes tendances et les meilleures pratiques du marketing d'influence. Nouvelle génération, constats, tendances et incertitudes. Milléniaux. Il se dit bien des choses sur ce terme parfois controversé. Christian Bourque, vice-président exécutif et associé de Léger Marketing, dévoilera les éléments différenciateurs de cette génération à prendre en compte dans une stratégie de communication. Par des comparaisons avec leurs parents notamment, ce spécialiste tracera le portrait d'une génération très influente qui fait face à de nombreux défis. Pourquoi la pertinence culturelle est-elle essentielle au marketing? Ben, les milléniaux, génération Y, c'est vous, Louis, et les jeunes adultes, les 18-34 ans, font énormément parler en représentant aujourd'hui la génération la plus prisée par la majorité des marques. Dans une ère numérique carburant à l'exploration de données, à l'hyper-personnalisation, et à la segmentation d'auditoires, les stratégies de communication visant les jeunes adultes se diversifient, laissant plus de place à la créativité, mais aussi à l'erreur. s'adressant quotidiennement à un public particulièrement critique. Marie-Claude Surprenant, stratège, et Annie Canville, chef du marketing de Vice Media, présenteront leur expertise en création de contenu, stratégie de diffusion et identité de marque, qu'elles appliquent autant au positionnement de Vice qu'en tant que partenaire média auprès d'annonceurs. Elles traiteront entre autres des notions de pertinence culturelle, de cohérence de marque et de sensibilité afin de mieux atteindre les 18-34 ans, mais surtout pour réellement connecter avec un auditoire plus jeune.
Il recommence à faire chaud un peu à Montréal et je vais vous donner une technique qui pourrait vous servir dans les semaines qui viennent pour vous rafraîchir un peu de manière simple. Nous allons nous inspirer de la nature et d'une mouche qui fait des bulles de salive pour se rafraîchir. Allons-nous voir tous les Montréalais faire des bulles de salive cet été ? À suivre. Pour réguler leur température corporelle par évaporation, les humains transpirent jusqu'à présent, les chiens allaitent, les chats lèchent leurs poils. Et une mouche des régions chaudes a adopté une autre technique, elle fait des bulles. L'ingénieuse Chrysomyia megacephala fait sortir de sa bouche des gouttes de salive avant de les aspirer à nouveau, ce qui lui permet de se rafraîchir, révèle une étude publiée dans Scientific Reports. Lorsque le fluide sort, il se produit une évaporation qui fait baisser la température de ce suc gastrique. Puis la mouche remet cette gouttelette dans sa bouche, ce qui fait diminuer la température du corps de la mouche, explique Denis Andrade de l'Université de Sao Paulo, au Brésil, et co-auteur de l'étude. Ce comportement semble être un moyen très efficace pour ces mouches de faire baisser la température de leur corps par évaporation. Ces insectes aux yeux rouges, qui vivent dans les régions tropicales et subtropicales, sont un type de mouche à viande qui pond des œufs dans des excréments et des animaux en décomposition. Je ne me souvenais pas de cette phrase-là, mais elle est dans l'article. On avait déjà observé que cette mouche faisait des bulles de salive, mais sans vraiment en comprendre la raison. Les gouttes sont de taille conséquente, elles peuvent faire la moitié de la tête de la mouche. Des chercheurs ont utilisé des caméras infrarouges pour détecter les changements de température sur le corps de l'insecte pendant qu'il émettait ces gouttes de salive. Les scientifiques ont observé que la goutte de couleur rougeâtre se refroidissait rapidement, perdant ainsi jusqu'à 8 degrés Celsius, par rapport à la température ambiante, en 15 secondes environ, indique l'étude. Les mouches ingèrent à nouveau la goutte, se rafraîchit, ce qui permet de baisser la température de la tête, du thorax et de l'abdomen de l'insecte de 1 degré la première fois, de 0,5 degré la deuxième et de 0,2 degré la troisième fois. Si l'opération est répétée, c'est encore plus efficace. Les mouches soufflent davantage de bulles de salive lorsque la température de l'air augmente et elles en produisent moins dans les environnements humides, car l'humidité de l'air gêne le phénomène d'évaporation, a remarqué l'équipe. Toutes ces observations apportent des preuves convaincantes que ces bulles servent au moins en partie à réguler la température du corps, selon Denis Andrade. Elles sont sans doute également utiles pour la digestion. Une vidéo, d'ailleurs, a été publiée par ces chercheurs.
On voit ça en action, non ?
On peut voir en action, oui, au ralenti, avec l'infrarouge.
La bulle qui éclate.
Oui, la bulle qui éclate. Moi, je trouve ça... J'ai envie d'être chercheur. Après avoir lu tous ces articles, j'imagine l'équipe de chercheurs tous autour d'une petite mouche avec leur caméra infrarouge. Quel métier passionnant.
Mais moi, je ne tuerai plus jamais les mouches.
Non.
Il ne faut plus faire ça.
Il faut s'en inspirer. Ce sont des influenceuses à leur manière.
Clairement. Est-ce qu'on sait si ça fonctionne chez l'homme de faire des bulles comme ça?
Essayez de faire une bulle de la taille de la moitié de votre tête. On va faire ça pendant la pause. On vous revient en deuxième partie avec les conclusions de l'enquête.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique.
On a un amateur en ordre très animé, Louis.
Très. Je pense qu'on l'a réveillé, on l'a.
Bon, on passe des mouches. Je ne sais pas si les mouches consomment de l'alcool. Faudrait s'informer auprès de vos scientifiques.
Il doit y avoir une autre équipe de chercheurs qui est là-dessus.
Sans doute. Peut-être qu'un jour, on y participera. 5 choses que les non-buveurs souhaitent que les buveurs comprennent. C'est sorti, ça, c'est écrit d'abord par Anne Brenoff. C'était publié dans le Huffington Post États-Unis, puis relayé sur le Huffington Post Québec dimanche dernier. Les règles de consommation d'alcool sont bien établies, mais la façon de se comporter avec les non-buveurs est rarement discutée. Les non-buveurs veulent être entendus. Le Huffington Post américain a demandé à ses lecteurs ce qu'ils voulaient que les autres savent à leur sujet, ce qu'ils avaient à dire. Séparer la facture est rarement équitable pour ceux qui ne boivent pas, bien entendu. Les boissons alcoolisées peuvent rapidement constituer une bonne partie de la facture. Qui n'a jamais été dans un grand groupe et quand la facture arrive, eh bien, quelqu'un suggère simplement de la diviser avec le nombre de participants. Peu de gens sont à l'aise d'être les seuls à lever la main pour protester. Je me sens extrêmement mal à l'aise et je trouve injuste de devoir payer cette part de la facture, a déclaré Laila Mostafavi. Les non-consommateurs, deuxième point, les non-consommateurs ont aussi besoin de soutien. Beaucoup de personnes sobres ou qui participent au mois sans alcool ne désirent pas devenir une curiosité. Un peu de sensibilité serait bien, dit-on. Diane Williams-McCullen, qui a été sobre pendant plus de 32 ans, a expliqué qu'elle ne devrait pas avoir à expliquer pourquoi elle ne boit pas. Lorsqu'elle est pressée, elle essaie d'utiliser l'humour et dit qu'elle est allergique à l'alcool. Alors, c'est une façon de tout simplement
de s'en tirer, de s'en sortir. Une petite pirouette.
C'est ça, on est habile.
Excellent. Nous allons revenir avec encore d'autres pirouettes juste après la pause. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous sommes de retour.
Ah!
c'était la nouveauté d'Alex Nevsky, pièce qui s'intitule « Amour immodéré ».
Ah, c'était moi?
Oui.
OK, allons-y.
Nous vous attendons.
Ben Louis, vous devez être heureux. Vous me l'avez confié il y a quelques semaines.
Je vous le dis toutes les semaines.
C'est ça. Oui, oui. Non, mais je tiens à valider. Ce n'est pas une information qu'on doit garder pour acquis comme ça. Ça peut changer. C'est un mouvement. Je m'intéresse particulièrement au travail. En fait, l'article qui est proposé ici mentionne qu'est-ce qu'on admire chez les autres. Par exemple, vous, peut-être vous pouvez admirer mes interventions non pertinentes. Ça peut être diversifié.
Toujours inattendu.
Oui, c'est ça. C'est une chronique. En fait, c'est un chroniqueur au journal Métro, Alain Sanson, dans la rubrique Carrière, et qui soulève ce point. Quand en information, je demande aux gens ce qui les fait vibrer ou quelles sont leurs valeurs, il arrive que certaines personnes ne sachent pas quoi répondre. Elles ne sont pas en contact avec leur être authentique. Elles l'ont réprimé. Ça peut être un parent, un prof ou un être cher qui leur a dit qu'ils visaient trop haut et que leurs attentes quant à la vie étaient irréalistes. Ça peut être un échec, un échec qui les a amenés à tirer des leçons qui ne s'appliqueraient pas à eux. Vous souhaiteriez reprendre contact avec ce qui vous fait vibrer? Je vous offre quelques moyens d'y arriver aujourd'hui. Premièrement, qu'admirez-vous chez les autres? Est-ce le courage, le sacrifice? L'esprit d'innovation, autre chose. Si vous l'admirez chez les autres, eh bien c'est que cette force sommeille en vous. Il est temps de la laisser s'exprimer. Deuxièmement, qu'est-ce qui vous émeut au cinéma? Quels gestes font poindre vos larmes? Qu'est-ce qui fait qu'un personnage vous semble tellement en phase avec ce que vous êtes? Vous êtes. Encore là, vous trouverez des exemples d'éléments que vous avez trop longtemps réprimé. Et encore une fois, il est temps de laisser sortir ça. Troisièmement, de quoi rêviez-vous étant jeune? Souvent, ça révèle des choses. Se peut-il que vous ayez fait fi de ces rêves, mais qu'ils vous hantent encore? Eh bien, c'est possible. Pour ma part, j'ai rêvé de faire de la scène quand j'étais jeune, et ce n'est qu'à 31 ans, après une perte d'emploi, que je me le suis enfin permis. C'est grâce à cela que je me réalise autant aujourd'hui. Finalement, quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Un compliment qui vous a donné l'impression de flotter pendant tout le reste de la journée. Il s'agit là d'un indice de plus qui vous permettra de découvrir ce qui se tapit en vous. Ces sentiments, vous pourriez les vivre chaque jour. Découvrez quelle valeur ou quelle force réside en vous et trouvez des manières de les exprimer au quotidien. Ça peut être dans le cadre de votre travail ou d'autres activités. Ce qui importe, c'est que vous soyez authentique chaque jour. Vous pourriez y gagner sur au moins 3 plans si on en croit certaines recherches. Vous deviendrez plus heureux, plus résilient et vous remarquerez que le succès vous vient plus facilement. C'est normal. Nous sommes à notre mieux quand nous utilisons nos véritables forces et que nous faisons pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Laissez émerger qui vous êtes, ne serait-ce que pour cette semaine, et sentez la différence.
Et en parlant de compliments, j'attrape votre thème au vol et j'enchaîne avec un petit article qui concerne mon président gaulois, président Emmanuel Macron, qui a fait sourciller la semaine passée à Sydney en Australie, où il était en visite officielle, et quand il a remercié le Premier ministre Malcolm Turnbull et son épouse délicieuse, je cite, pour leur accueil chaleureux. Le commentaire a rapidement suscité des réactions amusées sur les réseaux sociaux et dans la presse australienne. La journaliste Alice Workman a ainsi lancé sur Twitter qu'on peut sortir l'homme de la France, mais, 3 petits points, visiblement l'inverse non. Pour sa part, le réseau de télévision australien ABC News a dit sur Twitter, traduction infidèle, 2 points, Emmanuel Macron remercie l'épouse délicieuse du Premier ministre. Même si M. Macron semblait très sérieux, plusieurs observateurs croient qu'il blaguait. M. Turnbull venait à peine de mentionner le repas imminent de M. Macron avec des membres de la communauté française en Australie, et il y était allé de commentaires au sujet de la gastronomie française et des vins du pays. D'autres croient que le président français s'est simplement trompé quand il a voulu dire que Mme Turnbull était charmante, puisque ce mot se traduit en anglais aussi bien par « delicious », utilisé par M. Macron, que par « delightful ». se méfier de la langue de Shakespeare. Voilà, c'était une petite amusade qui nous venait d'Australie.
Gaïa Presse s'est paru le 26 mars dernier dans la section Biodiversité. Montréal, le 22 mars 2018, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, la Fondation David Suzuki et la Société pour la nature et les parcs SNAP Québec interpellent les gouvernements provincial et fédéral afin qu'ils respectent leurs engagements de protéger 10 % du Saint-Laurent d'ici 2020. La Fondation et la SNAP Québec estiment que des mesures doivent rapidement être prises en place pour préserver la riche biodiversité du fleuve et pour atteindre cet objectif dans les délais que se sont fixés Québec et Ottawa. En signant la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le Canada s'est engagé à protéger 10 % de ses océans d'ici 2020. Le Québec a quant à lui pris l'engagement de protéger 10 % du fleuve Saint-Laurent. Or, à ce jour, seul 1,3 % du fleuve est protégé. Le Saint-Laurent coule dans nos veines. Nous sommes plus de 5 millions au Québec à vivre à moins de 10 km des rives du fleuve qui approvisionne en eau potable plus de 43 % de la population. Le fleuve est aussi un garde-manger local et un véritable poumon économique pour plusieurs villes et villages au Québec. Surtout, c'est un vaste territoire marin riche d'une immense biodiversité. Nos gouvernements doivent travailler de concert pour accélérer le rythme afin de remplir leur engagement et protéger notre joyau, a affirmé Karel Méran, directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Le Saint-Laurent en péril. Différentes menaces perturbent les fragiles écosystèmes du fleuve, dont les changements climatiques, le trafic maritime engendrant de la pollution sonore et des collisions mortelles pour les baleines, les activités de pêche non durables, les contaminants comme les pesticides ou le plastique et la présence d'espèces envahissantes. Les aires marines protégées, ou AMP, constituent un outil précieux pour atténuer l'impact de plusieurs de ces menaces. Plusieurs projets d'aires marines protégées sont sur la table au Québec, comme celui de l'estuaire du Saint-Laurent ou des îles de la Madeleine. Il faut que les deux paliers de gouvernement redoublent d'efforts pour mener ces projets à terme d'ici 2020 et atteindre les cibles fixées. La mise en place de ces AMP contribuerait d'ailleurs directement au rétablissement des espèces en péril comme le béluga ou la baleine noire, tout en permettant une meilleure conciliation des usages dans notre territoire marin. Et ça, c'est commenté par Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec. La nécessité de protéger notre fleuve est réelle et urgente. L'hécatombe des baleines noires et le déclin contenu des bélugas marquent l'imaginaire et témoignent de l'urgence d'agir. Mais il y a tant d'autres espèces moins connues, mais aussi tout aussi important à protéger grâce à la mise en place d'un vaste vaisseau d'air marine protégé. Et ça, c'est affirmé par Louise Hénaud-Étier, qui est chef des projets scientifiques pour le Québec de la Fondation David Suzuki. La Fondation de la SNAP Québec profite de la Journée mondiale de l'eau pour lancer une vidéo sur le Saint-Laurent ainsi qu'une campagne d'envoi de messages au premier ministre canadien et québécois pour accentuer la pression sur Ottawa et Québec afin qu'ils respectent leurs engagements de créer 10 % d'aires marines protégées d'ici 2020. Notre vidéo souhaite remémorer aux Québécois l'attachement profond que nous éprouvons face au fleuve, à la beauté des paysages et aux espèces emblématiques qui l'habitent. Il faut toutefois réaliser que notre impact sur le fleuve est grand, tout comme notre responsabilité à l'égard de ce vaste territoire marin. Alors que Montréal sera l'hôte en mai 2018 de la 4e Conférence mondiale sur la biodiversité marine, accueillant plus d'un millier de scientifiques internationaux, tous les yeux du monde seront rivés sur nous. Québec et Ottawa doivent donner l'exemple et montrer au monde que la santé de nos aires marines nous préoccupe au plus haut point, a conclu Karel Méran. Qu'est-ce qu'une aire marine protégée? Les aires marines protégées sont un outil visant à protéger et à conserver ces espaces marins délimités en prévoyant l'application de mesures concrètes visant notamment à encadrer les activités commerciales et récréatives qui s'y déroulent. Il s'agit d'un parc national en version marine. Plusieurs sites sont actuellement à l'étude dans le fleuve Saint-Laurent en vue d'être classés aires marines protégées. Et je parle de cet événement-là, c'est à venir, c'est dans quelques jours, ça va se passer au Palais des Congrès. Et du 10 au 15 mai, de 20h à 22h, à la Maison du développement durable, là, c'est juste à côté du TNM, et c'est en collaboration avec la Fondation David Suzuki, bien, il y a un événement qui s'appelle « Immersion d'un océan à l'autre », et il y a plusieurs installations immersives qui vont vous plonger dans l'atmosphère océanique. Et je dois mettre ma petite partie là-dedans. On m'a mandaté pour créer une balado-diffusion de façon à plonger les visiteurs dans cette immersion-là. Et c'était un grand bonheur de faire ça. Alors, j'invite tout le monde à participer à cet événement.
Papa, je te parle pas trop souvent. Je suis dans mes affaires, puis je cours tout le temps. Tu sais bien que je suis pas fort ces prières, sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles, puis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'à soir j'ai le cœur dans bouteille, puis le moton qui passe pas frein. C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver, puis que ben vite ça va être le printemps. Le temps des sucres, l'ouverture de la pêche, pis que je me revois t'es cul, ça bâtisquant. Pogné d'un branche, pis toi qui me démêle, pis qui me remet un nouveau gréement. Une tape sur l'épaule, un brassage de tête, on était ben, ça bâtisquant. C'est plus pareil, oh non. C'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine par en dedans. Tout le temps. Papa, tu me disais souvent d'être à mon affaire pis de prendre mon temps. Je me tire partout, j'ai la vie qui s'en mêle, pogné d'un branche à tout bout de champ. Mais je me dis que si tu me checkes de ton perchoir, tu t'en fais pas trop, pis t'es confiant. Tu me tapes sur l'épaule, tu me brasses la tête, comme tu faisais sabbatisquant. C'est plus pareil, oh non. C'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine, par en dedans. Ça y est, je braille, tu parles d'une affaire. Toi, tu sourirais sûrement. Tu me prendrais l'épaule, tu me prendrais la tête. Puis tu me dirais, t'en fais pas mon grain. Tu me dirais aussi que la vie est belle. Et puis que la mort, ça fait son temps. Que tout le monde y passe, que ça fait de la peine. Mais que l'amour dure éternellement. C'est vrai, je t'aime, pis t'es là, comme un géant, comme un grand soleil par en dedans.
On vient d'entendre Keith Kuna qui se remémorait des bons souvenirs qu'il a eus sur la rivière Batiscan.
Après les canards en plastique, après les mouches qui font des bulles, autre animal et autre équipe de chercheurs, je vous parle cette fois-ci des grenouilles qui se retiennent d'uriner pour survivre à l'hiver.
C'est vous êtes pas sérieux.
Très sérieux. Vous avez envie de pipi et pas moyen de trouver une toilette publique ? Arrêtez de vous plaindre, la grenouille des bois passe 8 mois sans uriner pour survivre à l'hiver. Des chercheurs, mon nouveau métier préféré, viennent maintenant de percer son secret. Recycler l'urée, le principal déchet de l'urine, en azote utile permet à la grenouille d'hiberner, même si elle est entièrement congelée. L'azote ne la garde pas au chaud, mais elle protège les cellules et les tissus des dommages du gel à un moment où, tenez-vous bien, son cœur, son cerveau cessent de fonctionner et son sang de circuler. Des microbes spéciaux dans l'intestin des grenouilles leur permettant de recycler l'urée, peut-on lire dans une étude publiée par le journal scientifique Proceedings of the Royal Society B. Certains décrivent l'urine des grenouilles comme un type d'antigel, mais le co-auteur de l'étude, le zoologue John Costanzo, rappelle que leurs yeux sont blancs, leur peau est congelée, elles ressemblent à des petites roches, elles sont gelées. Si ces grenouilles étaient humaines, on dirait qu'elles sont mortes, a-t-il ajouté, mais quand le temps se réchauffe, elles reprennent vie. La grenouille de bois se retrouve partout en Amérique et même dans le cercle arctique. En Alaska, la température de certaines grenouilles chute à moins 18 degrés Celsius. D'autres animaux cessent d'uriner pendant leur hibernation, mais contrairement aux grenouilles, des mammifères comme les ours, par exemple, ne sont pas complètement gelés. Monsieur Costanzo et ses collègues ont étudié la flore intestinale des grenouilles, décidément c'est une thématique du matin. Ils ont trouvé en abondance chez les grenouilles congelées un type de bactérie qui adore le froid, mais qui est indétectable chez des grenouilles actives.
Et si on mange des cuisses de grenouilles, il n'y a pas de danger d'avoir de l'urine là-dedans?
L'urine ne circule pas dans le corps.
Son cœur arrête, alors je me dis peut-être que...
Non, tout reste en place,
okay,
congelé. Vous pouvez continuer avec les cuisses de grenouilles.
On sait si les grenouilles recyclent le verre?
Sûrement, ouais, vous savez, la nature, tout ça respecte la planète, à mon avis.
Oui, on est un tout, c'est important. Ben, on recycle beaucoup, Louis, vous le savez, hein, le verre particulièrement, et on se demande où est-ce que ça aboutit. Et ben, le verre recyclé des trottoirs à base de poudre de verre à Montréal, ici même.
Ne marchons pas pieds nus, alors.
Non! C'est intégré au ciment. C'est un amalgame, là. Il n'y a pas de danger. Là. Vous pouvez y aller en gougoune, très certainement. Et ça nous vient, ça, du site Gaïa Presse. C'était publié le 7 mai dernier dans la rubrique Aménagement Innovation. Sylvain Ouellet, le responsable des infrastructures à la Ville de Montréal, a annoncé la réalisation de plusieurs trottoirs en béton à base de matériaux recyclés en 2018, prouvant ainsi les efforts de la Ville de Montréal dans le développement durable. Nous sommes toujours en constante recherche de nouvelles façons de faire pour construire des infrastructures résistantes et sécuritaires tout en diminuant leur empreinte écologique. Le trottoir de béton est à base de poudre de verre et est une solution écologique moins dispendieuse et tout aussi résistante que le béton à base d'autres composantes, explique M. Sylvain Ouellet. La Ville de Montréal, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, a effectué plus d'une centaine de tests afin de s'assurer de l'efficacité, de la sécurité et de la durabilité des trottoirs en béton à base de poudre de verre. Et cette technique laisse présager une durabilité similaire, voire même supérieure, au béton sans poudre de verre. Nous allons continuer d'utiliser cette méthode qui a fait ses preuves, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer les recherches afin de développer de nouvelles techniques efficaces et encore plus écologiques pour offrir une ville solide et plus verte aux Montréalais, indique M. Ouellet. Au cours de l'année, 8 projets incluront des trottoirs à base de béton, à base de poudre de verre. Un sommet pour la Ville de Montréal. Ces travaux vont permettre de récupérer l'équivalent de 500 000 bouteilles de vin. Ça va nous inciter à davantage consommer une bouteille de vin, mais ça, c'est une autre histoire. En augmentant sa proportion d'infrastructures à base de matériaux récupérés, la Ville de Montréal joue un rôle important dans le développement de ce marché qui est peu développé au Québec. Elle contribue également à développer des techniques ayant à cœur le développement durable. Et je cite 8 exemples très concrets d'endroits où est-ce que cette matière va être intégrée. Le boulevard Saint-Michel, de la rue Bélanger au boulevard Chaunessy, la rue Saint-André, de la rue Chérier à l'avenue Laurier, l'avenue Van Horn, du boulevard Desquarrés à la rue Victoria, boulevard Henri Bourassa et l'avenue de Parc Georges, du Parc Georges, la rue Clark entre la rue Laurier et la rue de l'Arcade, boulevard Cavendish, de l'avenue Fielding au chemin de la Côte-Saint-Luc, de la rue Victoria et la 6e avenue à la 1ère avenue, et finalement la rue Notre-Dame, de l'avenue Mercier à la rue Mousson. Bon, c'est du concret, ça.
Allez, une petite insolite qui nous vient des États-Unis, qui nous parle d'un homme qui, pendant un certain temps, n'a pas pu fouler de trottoir puisqu'il était en prison et ne pourra pas les fouler dans les années qui viennent puisqu'il a récidivé de fort belle manière, vous allez voir. Un homme emprisonné en 2016 pour avoir volé une banque a récidivé, alors déjà dès le lendemain de sa remise en liberté, et surtout en attaquant exactement la même succursale dans l'État américain de l'Ohio, a indiqué mercredi le bureau du procureur fédéral. Mark Hicko, Sonny Lewis, est accusé d'avoir attaqué cet établissement le 12 avril, soit son premier jour complet d'homme libre après sa libération sur parole pour avoir commis les mêmes faits quelques années plus tôt. L'homme de 40 ans est désormais mis en accusation au niveau fédéral, inculpé après avoir volé auprès d'un guichetier par la force, la violence et l'intimidation. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 20 ans de prison cette fois-ci. Selon le bureau du procureur fédéral, il est soupçonné d'avoir dérobé à peine un peu plus de $1,000 lors de son second méfait présumé. Il avait été condamné à plus de 2 ans de prison en 2016 et avait été libéré le 11 avril avec une mise à l'épreuve de 3 ans. Chassé le naturel, il revient au galop.
C'est ça. Vous faites du vélo, Louis?
Oui.
Ah, c'est important. J'ai des bons conseils pour vous. Eh bien, c'est la saison qui commence. Alors, 6 conseils pour ressortir son vélo de façon sécuritaire. Dans un premier temps, eh bien, il faut vérifier les pneus. C'est à peu près inévitable que la pression dans vos pneus ne sera pas la bonne. Il faut ajouter de l'air à vos pneus avant de rouler avec votre vélo. Si la quantité d'air n'est pas adéquate, le pneu pourrait pincer la chambre à air entre le pneu et la jante et la roue de vélo. Et c'est presque une crevaison assurée. Si le pneu est trop mou, la jante pourrait se bosser en raison d'obstacles sur la route, comme des petites pierres ou des craques dans l'asphalte. Et ça, on en a beaucoup de craques dans l'asphalte. Deuxième conseil, vérifie la tension des freins. Vérifie si les freins sont toujours en bon état et s'ils fonctionnent. Vérifie si vous êtes capable de barrer les deux roues en écrasant le levier à frein. Si ces derniers ne semblent pas freiner adéquatement, il existe une bague d'ajustement sur les deux freins qui, en la dévissant, peut ajouter de la tension dans les câbles. Troisième conseil, vérifiez l'état de la chaîne. Vérifiez la présence de rouille ou de la saleté excessive sur la chaîne. Et c'est un mythe, Louis, que le fameux WD-40 est favorable pour huiler les chaînes, puisque ce produit salit votre chaîne à long terme. Remarquez que j'ai déjà essayé de l'huile d'olive, moi, mais ça avait quand même bien fonctionné. Nettoyez et lubrifiez la chaîne avec un produit facilement accessible dans les magasins de sport ou les magasins spécialisés en vélo. Si votre chaîne est trop rouillée, il faut la changer. Elle pourrait endommager le reste des composantes de votre vélo. Quatrième conseil, vérifiez le mécanisme de vitesse. Si les vitesses montent mal, ça veut dire qu'il manque de tension dans votre câble dédié aux vitesses. Cinquième conseil, vérifiez l'espace entre les roues. S'il y a un espace important et que vous êtes capable de déplacer votre roue de gauche à droite en la secouant, eh bien, c'est parce que ce n'est pas suffisamment solidement installé. Et dernier conseil, vérifiez la solidité des vis et boulons. On se rappelle que c'est de la mécanique, ça bouge, c'est en mouvement, alors c'est normal qu'il y ait un petit jeu qui s'installe sur ces composantes.
Rouler en toute sécurité.
Ouais.
« ce qui conclut cette émission après cette ribambelle d'articles en tout genre.
C'est pratique quand même.
C'est très pratique. Il y a du concret quand même, du sérieux, plein de chercheurs.
Un peu moins.
Remerciements à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux. Je n'ai plus les adjectifs pour les qualifier, ces choix musicaux, toujours aussi surprenants, amusants. Merci beaucoup Jean-François Roy.
Merci Louis, j'ai apprécié mon bonbon, c'était sympathique.
On se retrouve pour un autre bonbon la semaine prochaine, mardi prochain, même heure. Bonne semaine à tous.